Bonsoir, c'est indéniable, spectaculaire même, en 30 ans, le financement des partis politiques et des campagnes électorales a fait de merveilleux progrès. C'est plus propre, c'est plus transparent, c'est sûrement plus juste, presque égalitaire. Fini les grosses entreprises du BTP ou d'ailleurs qui nourrissaient les candidats pour récupérer les marchés publics une fois leur poulain élu. Bref, les règles ont changé. Les lois se font plus strictes, une très sérieuse commission veille au grain. Nos invités aussi, on va le voir, n'empêche que ça ne va toujours pas vraiment. Il reste des factures étranges au moment des élections et des partis politiques qui tirent la langue, presque en faillite, obligés d'en appeler au bon cœur des militants, voire de renoncer à présenter des candidats finalement. On se demande si à vouloir toujours laver plus blanc, on n'est pas en train de tuer la vie politique en France. Trois spécialistes de la question sont avec nous pour vous répondre ce soir en studio. René Dosière, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un ancien député socialiste de l'Aisne, connu pour traquer depuis des décennies. On peut le dire. Oui. Les abus, les gaspillages, les aberrations de gestion de nos élus, en premier lieu desquels le président de la République. On vous doit plusieurs ouvrages et notamment « L'argent caché de l'Élysée » et plus récemment « Argent, morale et politique » paru au Seuil. Et vous avez créé au mois de mai dernier l'Observatoire de l'éthique publique que vous présidez. Avec nous ce soir, Tris Acatriné, bonsoir.
Bonsoir.
Dans une autre vie, vous avez été collaboratrice parlementaire. Oui. Et depuis, vous avez créé la plateforme en ligne Projet Arcadiste, une sorte d'annuaire très très précis, plein de renseignements sur chaque parlementaire, ses activités parallèles de conseil par exemple. Tout y figure, même le nom des collaborateurs, ce qui permet, je dis ça au hasard par exemple, de débusquer les emplois familiaux.
Au hasard.
Et puis nous recevons Erwan Balanan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député MoDem du Finistère et vous défendez un projet de banque de la démocratie, une banque qui servirait à financer les campagnes électorales, projet enterré pour l'instant, mais vous allez vous accrocher.
Pour l'instant.
Le téléphone sonne jusqu'à 20h, vous nous appelez au 01 45 24 7000, vous posez vos questions, vos remarques aussi en rejoignant le site franceinter.fr, la page de l'émission. Le financement des partis politiques et des campagnes électorales vous semble-t-il transparent et juste? Comment peut-on encore moraliser les pratiques tout en permettant aux partis et aux candidats de vivre? Est-ce aux militants de renflouer les caisses des partis? Le téléphone sonne est ouvert, soyez les bienvenus.
Arnaud Bousquet, le téléphone sonne.
Premier tour de table très rapide. Est-ce qu'on doit être satisfait, finalement relativement fier, du mode de financement de nos partis politiques et de nos campagnes électorales en France? Est-ce qu'on est arrivé, bon an, mal an, à un système moral et transparent? Tris Acatriné.
Alors, dans le cadre en fait, du projet Arcadie, je travaille actuellement sur une plateforme qui va justement énumérer et compiler et un petit peu indexer tous les partis politiques qui ont existé en France depuis les premières lois sur la moralisation de la vie politique jusqu'à aujourd'hui. Et effectivement, on peut pas dire que rien n'a été fait, puisqu'il y a des choses qui ont été entreprises. Néanmoins, j'ai l'impression quand même qu'on stagne à chaque fois, c'est un petit pas par un petit pas, et qu'on n'a pas de véritable révolution copernicienne en la matière. Alors oui, il y a des pratiques qui se sont un petit peu moralisées, mais à mon sens, c'est pas encore tout à fait ça.
On verra où sont les freins à ces évolutions. René Dosière, oui, on revient de loin quand même.
On peut être fier, d'abord par rapport à ce qui existait avant qu'il y ait un financement public et donc des contrôles. C'est-à-dire avant, c'était tout, n'importe quoi, l'argent secret, les intérêts. Et puis, il suffit de regarder les sociétés dans lesquels il n'y a pas de financement. Là, je rentre un pays d'Afrique ou bien dans les anciens pays de l'Est. Alors là, on voit qui peut faire de la politique. Je veux dire, ceux qui ont de l'argent, on voit, on manipule les élections, etc. Donc, chez nous, même s'il peut y avoir quelques accidents, on n'est plus dans ce système. Et on a surtout démocratisé avec ce financement public. La vie publique, ça ne coûte pratiquement plus rien à un candidat de pouvoir se présenter à une élection, sous réserve, naturellement, qu'il obtienne 5% des voix.
Bon, Erwan Balanan, vous avez obtenu plus de 5%, puisque oui, vous avez été élu il y a
mais pas tout le temps.
Un peu plus d'un an. On reviendra sur les difficultés du MoDem dans les élections précédentes. Fier du mode de financement de votre parti, mais pas que?
Ouais, je pense que depuis 1988, le tournant, on a quand même passé dans un autre monde sur ces questions-là.
90 surtout.
90, hein, 90 et encore plus 95, oui, si on veut être vraiment complet. Je pense que ça va mieux, je pense que c'est plus propre. Après, il reste encore des choses. Et je pense que la dernière loi, la loi Confiance de juillet 2017, a encore amélioré les choses, en particulier sur la question, par exemple, des emplois familiaux, mais pas que. Il y a eu aussi quelques petits ajustements sur le financement des micro-partis qui font que on va vers du mieux. Mais le système ne sera jamais parfait. Et après, il faut se méfier aussi d'un système qui serait trop parfait et qui figerait complètement le rapport des forces entre les partis. Je pense que tout le sujet de la financement, le financement de la vie politique, c'est de permettre quelque chose qui soit, je vais dire, propre, et en même temps permettre à l'émergence de nouveaux courants, de nouveaux partis d'exister. On l'a vu, ça a marché.
Gérard nous attend en Bourgogne, on va le retrouver. Bonsoir Gérard.
Bonsoir.
Vous aviez tout à la fois une remarque et une question pour nos invités.
Écoutez, d'abord, j'entends ce qui est dit. Merci d'abord de me permettre de poser la question. Mais moi, je trouve que, évidemment, vous êtes entre vous. Mais moi, je trouve qu'il y a, d'une part, dans les partis politiques, un peu trop de permanents. Disons tout de suite que je suis un ancien communiste, pour que les choses soient claires, et qui n'a pas perdu ses idées non plus. Mais je trouve anormal, totalement anormal, que par le biais des impôts, on puisse financer des partis politiques et donc m'obliger, moi, avec mon argent, sous prétexte d'une démocratie que je trouve pas adaptée à financer des partis politiques que je ne soutiens pas. Je pense que si le financement reposait à partir des idées de ces partis politiques, c'est-à-dire on va avoir évidemment des millions ou des centaines de milliers ou des millions de gens qui vont voter pour ce parti politique, qui vont être des sympathisants, qui vont être des adhérents, et à ce moment-là, avec un butoir, il y a quand même possibilité de financer, et ça serait, à mon avis, beaucoup plus sain que de faire fonctionner la pompe à impôts dont on dit toujours, dont on a tellement du mal à dégager pour la culture ou les choses comme ça, puisque je suis un artiste et donc je vois bien comment les subventions n'arrivent pas, et là, on va financer les partis politiques. Je pense que ça doit être le peuple, les gens qui votent et qui sont sympathisants des idées. Et à partir de ce moment-là, moi, je suis d'accord pour verser régulièrement à ces partis politiques. Et il y a les moyens, avec l'informatique maintenant, de contrôler tout ça.
Merci.
Ne me dites pas qu'il y a de la démocratie aujourd'hui.
Alors, nos invités vont vous répondre sur argent public qui sert à faire fonctionner les partis politiques.
Il faut avoir conscience des chiffres. C'est 69 millions par an.
Tout parti confondu.
Oui, tout parti confondu. Donc, alors évidemment, on peut y ajouter une cinquantaine de millions, mais là, c'est au titre des déductions fiscales, donc des dons et des cotisations qui sont déductibles des impôts. Mais ça, chaque individu fait ou ne fait pas. Mais le financement public, si vous voulez, c'est à ce niveau-là. Maintenant, si on prend en compte le financement des élections qui ont lieu, c'est en gros ramener à l'année une centaine de millions, mais là pour organiser les élections municipales, régionales, départementales, présidentielles. Donc 69 millions, il y a d'ailleurs quelques années, c'était nettement supérieur, et puisqu'on a plafonné, c'est pas quelque chose de considérable.
Et de toute évidence, c'est pas forcément suffisant pour faire vivre les partis qui, pour certains, sont obligés de vendre les immeubles, les locaux, et d'en appeler aux dons.
Oui, tout simplement parce qu'ils peuvent passer d'une situation où ils avaient beaucoup d'argent à une situation où ils vont en avoir moins. Mais en dehors du financement public, les partis politiques ont aussi les cotisations des élus, les dons, etc. Par exemple, le Front National fait du cinéma parce que sa participation publique va être limité, le Front National, il a encore des cotisations de ses adhérents. C'est 20%,
le Rassemblement National qui cherche quand même 2 millions d'euros. Hein.
Oui, mais ils ont des cotisations, ils ont des élus. Enfin, je veux dire, de toute façon, aucun parti politique n'a jamais été mis en faillite. C'est impossible.
Ah, vous ne croyez pas à ça?
Non, c'est
la faillite des partis politiques, ça n'arrivera jamais.
C'est une faillite d'un parti politique, ça n'existe pas.
Erwan Balanant.
Juste pour répondre au monsieur, parce que sa remarque de dire que lui, il aimerait que ça soit son argent directement via une cotisation. Il faut peut-être rappeler un petit peu comment fonctionne le système. Je pense que c'est rapidement. On a deux parts dans le système, dans le système de financement des partis. Il y a la part qui est le nombre de voix de chaque parti au premier tour autour de l'élection législative. Donc là, il y a un ratio.
Une voix égale un certain montant.
1,20 €, 1,50 €, oui, voilà. Et puis après, par rapport au nombre de parlementaires inscrits. Moi, je trouve que c'est pour le coup assez juste. Ça donne un rapport. Et effectivement, si vous votez pour le Parti communiste, comme faisait le monsieur, quelque part, vous donnez un peu au Parti communiste. Après, il a parlé de quelque chose qui est intéressant aussi, qui est un vrai sujet, qui est un sujet qu'on n'aborde pas toujours, mais ce sont les problèmes, les collaborateurs et les partis, et justement le Parti communiste, où les élus redonnent au parti pour justement financer les collaborateurs. Bon, mais ça, c'est la liberté du parti. Moi, je pense qu'on est dans un système qui, aujourd'hui, est assez transparent et sain, en tout cas, en ce qui concerne l'argent public. Et il faut le dire, vous l'avez rappelé, monsieur Dosière, c'est une somme qui n'est pas énorme. 100 millions d'euros, c'est pas non plus... Il faut comparer au budget de la culture, parce que ce monsieur parlait de la culture, ce n'est pas grand-chose.
Trice à Catherine.
Alors, je vais aller dans le sens de M. Balanant et M. Dosière avec un exemple très simple en tête. C'est l'exemple américain où les entreprises... Alors, il y a du financement public dans les partis politiques américains puisqu'il y a une commission de contrôle. Enfin, mais les entreprises ont le droit de financer. Le problème, c'est qu'à partir du moment où on décide de tout déléguer sur les partis politiques, par exemple au secteur privé, en disant, en gros, les partis, débrouillez-vous, nous, l'État, on ne met plus d'argent sur la table... On a aussi la contrepartie qui va être de dire « Ok, mais dans ces cas-là, on autorise le financement des entreprises. » Et là, c'est la porte ouverte aussi...
Par les entreprises.
Par les entreprises. Donc, ça va être aussi la porte ouverte à des pressions. C'est-à-dire qu'il y a des grosses entreprises qui vont dire « Voilà, moi, je donne tant d'argent à tel parti, mais ça veut dire que derrière, vous prenez mes amendements, vous prenez mes résolutions, vous prenez mes projets de loi, mes propositions de loi, pardon. Et en gros, tout ce que je veux, vous dites amen. Je ne suis pas sûre que ce soit un système qui soit beaucoup plus sain. J'entends tout à fait la récrimination du monsieur quand il dit on met beaucoup d'argent pour les partis politiques et à côté de ça, on donne rien par exemple à la culture.
C'est pas tout à fait vrai.
Ce qui n'est pas tout à fait vrai parce que quand on regarde attentivement les comptes des partis politiques, et puis en plus c'est très rigolo dans le cas du Parti communiste, c'est que c'est pas forcément les partis les moins fauchés. Il y a des partis de gauche... qui ont un patrimoine qui est quand même pas modeste.
Mais qui sont obligés de le vendre le louer, petit à petit ou de le louer. Il y a un autre Gérard qui nous attend au 01 45 24 7000. Bonsoir.
On les choisit comme ça.
Bonsoir.
Nous vous écoutons. Votre question, votre remarque sur le financement des partis et des campagnes.
Oui, ce sujet est très important. Vous avez raison de le mettre à l'ordre du jour. Une première remarque, vous m'avez situé en Bourgogne, alors je ne suis pas bourguignon, je suis franc-comtois. Et malheureusement, depuis le 1er janvier 2016, pour la première fois dans l'histoire, la Franche-Comté est administrée par un organisme extérieur à la Franche-Comté. Passons sur ce détail.
Capitale régionale à Dijon, c'est ça ?
Oui, la capitale de la Franche-Comté, c'est Besançon, et l'ancienne capitale était Dole. Dijon, c'est Dijon, c'est très intéressant, c'est une très belle ville, j'y ai vécu, mais la Franche-Comté, ses spécificités n'ont rien à voir avec celles de la Bourgogne. Passons sur ces détails, ça n'est pas le sujet du jour. Je voudrais revenir quelques instants sur la déclaration de M. Dosière, n'est-ce pas ? Il a dit, me semble-t-il, je vais me le répéter, que l'élection d'un député ne coûtait rien, enfin d'un parlementaire ne coûtait rien à l'élu.
Non, c'est pas ce qu'il a dit.
C'est à la fois exact, mais ça comporte, si vous voulez, des dérives qui sont tout à fait inacceptables, puisque ça transforme les élus en débiteurs de leur parti. Alors pour ma part, je ne suis pas hostile au financement public, bien au contraire, mais... Si vous voulez, je m'inscris dans le cadre constitutionnel. Je trouve tout à fait anormal que l'on compare la France et les États-Unis parce que, à la différence des États-Unis, nous avons une constitution strictement citoyenne. Et ça a des conséquences. La loi, l'expression de la volonté générale, c'est l'article 6 du préambule de 1789 qui le dit, n'est-ce pas ? Et donc, je vais essayer de faire simple parce que je ne voudrais pas vous lasser, il y aurait nécessité de beaucoup plus d'explications, mais je vais essayer de faire simple. Actuellement, lorsqu'on se présente comme candidat aux législatives, la déclaration est faite par un citoyen candidat qui est indépendant. On lui demande simplement à la fin de sa déclaration s'il souhaite être rattaché à un parti politique pour les financements de la vie publique. Pourquoi pas ? À partir de ce moment-là, il y a tout un tas de dérives qui se mettent en place, n'est-ce pas ? Mais le financement, si vous voulez, ce sont les partis qui reçoivent l'argent et qui ensuite financent l'élection des députés. Ce que je dis, c'est que ça devrait être l'inverse, c'est-à-dire que la puissance publique finance l'élection des députés, n'est-ce pas, à charge pour ceux-ci ensuite de verser ce qu'ils estiment nécessaire pour assurer le fonctionnement du parti, c'est-à-dire de la structure qui va leur permettre, entre guillemets, de porter sur le plan général les idées qu'ils défendent, qu'ils soutiennent, n'est-ce pas. Le résultat de du mode de financement actuel, c'est que tout simplement, on a des partis qui sont des partis godillots. On voit bien que quel que soit le parti, qu'il s'agisse de l'actuel parti majoritaire ou des socialistes ou bien des députés gaullistes auparavant, eh bien, on a des députés qui sont des godillots, tout simplement.
Gérard, on va faire comme à l'Assemblée nationale avec les députés, godillots ou pas, je vais vous demander de poser votre question.
Eh bien, je demande ce qui interdit, entre guillemets, ce qui pourrait interdire la modification du financement dans le sens que je viens d'indiquer. Mais ce que je viens de dire me semble tout à fait conforme aux règles constitutionnelles.
Merci de votre question, Gérard. Qui veut répondre sur...
Je crois que Gérard se trompe sur beaucoup de points. Quand je dis que une élection législative, ça ne coûte pas très cher, si vous voulez, j'ai fait les chiffres, c'est en 2012, le coût moyen d'une élection, la dépense, si vous voulez, d'un candidat, c'est 30 000 euros. Il est resté à la charge du candidat 1 700 euros. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'essentiel vient du financement public, c'est-à-dire... Encore une fois, il faut faire plus de 5%, mais à partir de ce moment-là, l'État va rembourser une partie des frais. Ensuite, il y a les dons qui peuvent être faits par des individus. Et contrairement à ce que pense Gérard, le financement des partis politiques pour les campagnes est de plus en plus limité. Les partis politiques ne financent plus les campagnes des candidats, tout simplement parce que les règles de financement pour les candidatures font que les partis politiques... Pour l'essentiel, c'est vrai dans certains cas, mais ça n'est plus vrai pour les grands partis politiques qui n'ont plus à financer les campagnes de leurs militants.
Trissa Catriné, vous vouliez conclure sur ce sujet.
C'est-à-dire, je ne vois pas ce qui empêcherait de changer le fonctionnement. En fait, c'est simple, c'est la Constitution. Alors dire que la Constitution de la Ve République, c'est une Constitution citoyenne, bon, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais le sujet n'est pas là. Mais il faudrait une réforme constitutionnelle, et c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas de règles plus strictes en ce qui concerne l'encadrement des partis. Moi, j'ai une marotte qui consiste à dire que, par exemple, tous les comptes de campagne, alors je m'excuse par avance, hein, j'aimerais que tout soit en open data. Je sais qu'en l'état actuel de la loi et de la législation, c'est pas possible. Ça, ce serait mon fantasme, parce que bon, je travaille quand même sur la data.
C'est-à-dire que toutes les données soient accessibles, moi, absolument toutes les données.
Ouais, j'avoue que je trouve que ça serait...
Erwan Balanant,
qui
est député. Hein.
Oui, qui est député, et moi je peux être transparent, mon compte de campagne, c'était 14 000 euros. Tout compris avec les valorisations, mais j'ai dû trouver au mois de mai 8 000 euros. Et c'est là que c'est pas si simple, monsieur Dosière, c'est que justement les partis ne financent plus. Ils vous donnent une investiture, mais ils n'ont pas toujours le cash, la trésorerie pour financer. Et je peux vous assurer que aller voir une banque pour trouver 8 000 euros, c'est pas toujours simple. Alors moi, j'étais investi par le parti qui venait de gagner, la présidentielle, par le parti de monsieur Macron et le MoDem. Le banquier, il a vite vu que ça allait être possible. Mais un candidat avec une autre étiquette, et je le sais, puisque moi, quand j'ai été investi pour le Centre pour la France en 2012, je n'ai pas réussi à avoir cet argent.
D'où l'idée de banque de la démocratie.
Exactement, de la démocratie.
J'ai eu le même écho à droite.
Vous n'avez pas fait sûrement beaucoup de voix.
Moins, effectivement.
Bon. France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le hashtag Telson.
Alexandre nous appelle depuis le 14e arrondissement de Paris. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Alexandre de Paris 14. Donc, moi c'est plus une remarque que j'ai à faire. J'ai donné des sous, j'étais un généreux donateur auprès d'un parti politique. Et je trouve que cette manière devrait se généraliser de plus en plus. Ça devrait être la seule manière de payer les partis politiques, et que c'est un peu comme pour les actionnaires quand ils possèdent des actions d'Eurotunnel ou d'une grande chaîne de télévision, et bien ils s'approprient une partie du parti politique comme ça, et ça les rend peut-être heureux, ça les rendrait plus heureux.
Ouais, mais
Mais c'est une idée. le député Balanon va vous répondre.
Oui, mais donner tout le financement des partis sur les sympathisants, on peut très vite avoir des dérives. Et c'est comme ça.
Comment ça se passe aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est plafonné.
7500 euros ?
C'est 7500 euros.
Pas un sou plus.
Par an, oui. Par personne. Ouais. C'est moins, c'est 4500 et ça peut aller jusqu'à 7500 quand il y a une élection.
C'est 7500 pour les partis politiques.
Voilà, pour les partis.
Et c'est 4600 pour une élection. Mais regardez, tout parti confondu, les cotisations des adhérents, c'est 11% de leurs recettes. Les élus, c'est 14%. Il y a des variations selon les partis. Et les dons, c'est-à-dire les dons individuels, c'est autour de 20%. Je sais bien qu'en marche, en 2016, les dons, c'est 90%. Hein, des 4 millions qu'ils ont récupérés. Mais enfin, c'est très, très différent. Donc, il y a un financement déjà multiple. D'une manière générale, on voit quand même que le financement public a tendance, si vous voulez, à diminuer.
Et on fait de plus en plus appel. La part des particuliers grandit.
La part des particuliers, mais enfin, ça continue à exister.
Sachant que la part des particuliers, il y a aussi une part publique, puisqu'il y a la déduction d'impôt des 66%. Oui. Et ça, on a tendance à l'oublier.
Mais ce qui est un peu dommage, c'est que les dons des particuliers ne soient pas rendus publics. Là, ce que la majorité actuelle a refusé, on comprend pourquoi, compte tenu d'ailleurs des financements d'En Marche. On peut les connaître.
Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit pour ces raisons-là.
Je pense que ça aurait été plus simple, d'ailleurs, que les choses soient rendues publiques, au moins pour les dons les plus importants, pour éviter le phénomène qui se passe, qu'on reprochait avant aux entreprises. Là, on n'est plus dans des entreprises, mais on est dans des gros donateurs. 7500, attention, en fait, c'est 15 000, parce que c'est par foyer. Oui, ça fait déjà être capable de verser 15 000.
Il faut être sur la même longueur d'onde
déductible, à hauteur de 66%, hein, quand même.
C'est le seul point sur lequel je ne serais pas d'accord avec Monsieur Dosière pour une raison très simple.
Prise à Catherine de la plateforme Projet Arcadie.
C'est que en France, on considère que on ne peut, enfin, les opinions politiques, tout comme les convictions religieuses, syndicales, etc., ça relève aussi un petit peu du champ de l'intime. Et le problème d'avoir une révélation des dons des particuliers, ça risque aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même au XXIe siècle avec l'ère des réseaux sociaux, avec certaines pratiques.
Ça peut faire peur aux particuliers.
Et ça peut faire peur. Et parfois, on aurait des anecdotes à vous raconter avec Tris sur aussi la transparence qui va trop loin. C'est que parfois, il y a des gens qui se posent des questions.
En avez trop dit ou pas assez?
Non, c'est pas que j'en ai trop dit, c'est que il faut faire attention. Moi, je suis pour la transparence. Je suis pour la transparence et il faut qu'il y ait des cadres. Mais après, il faut laisser la liberté aux gens. Et il y a des gens qui peuvent avoir le droit de donner à un parti sans dire à qui ils donnent, par exemple.
Dès lors qu'il y a déduction fiscale, on est dans un système un peu différent. Si le don n'était pas déductible fiscalement,
on pourrait imaginer, évidemment.
Mais dès lors qu'il y a déduction fiscale,
on pourrait imaginer le fait de garder l'anonymat, mais en décidant de ne pas avoir la déduction fiscale. Je pense que c'est une très bonne idée.
C'est un équilibre.
Voilà.
Bon, vous êtes d'accord autour de ça, maintenant il faut le proposer.
Damien
nous attend au 01 45 24 7000. Bonsoir Damien.
Oui, bonsoir.
Nous vous écoutons.
Oui, moi je voulais relater ce qui s'est passé il y a quelques mois encore dans la commune où j'habite.
Accent du sud-ouest, vous nous appelez d'où Damien?
Je vous appelle de la région Midi-Pyrénées. Le maire de la commune était aussi parlementaire. Il est toujours, mais il a dû laisser son mandat avec le cumul des mandats. Et donc, son attaché de cabinet, ou plutôt son collaborateur de cabinet à la mairie, était aussi son attaché parlementaire. Donc, il cumulait ses deux emplois. Mais surtout, c'était aussi le secrétaire général du parti politique du département. Ce qui, pour moi, est une façon de financer un parti politique. Ce qui est gênant aussi, c'est que sur la déclaration de la haute autorité la transparence dans la vie politique du parlementaire, cette personne était déclarée mi-temps attaché parlementaire et mi-temps collaborateur à la mairie, alors que je suis persuadé que cette personne était rémunérée à plein temps, au moins en tant que collaborateur, puisque les attachés, on leur donne ce qu'on veut.
Ce sont des choses qui arrivent encore souvent, ce genre de cas de figure, René Dosière.
Oui, dans le financement de la vie politique, si vous voulez, je vous ai dit que pour l'État, les sommes étaient minimes, c'est un millième du budget de l'État. Par contre, pour les collectivités locales, notamment au niveau des rémunérations des élus, c'est 2 milliards à peu près. Ça ne fait jamais que 1% du budget des collectivités locales. Donc c'est pas quand même considérable. Mais les sommes sont plus fortes. Et là, il est vrai que dans les collectivités, longtemps, les contrôles ont été moins stricts, les possibilités d'avoir des recrutements un peu parallèles. Bon, la dernière législation a un petit peu amélioré les choses. On n'empêchera pas, si vous voulez, des comportements individuels qui soient déviants. Hein. Mais l'essentiel, c'est de pouvoir soit les sanctionner, soit éviter qu'ils se produisent.
Aujourd'hui, on dit déviant. Hier, c'était la norme.
Ah non, si vous voulez, tous les élus, n'avaient pas le comportement de celui que votre interlocuteur signale quand même. Hein.
Trissa Catrinet, sur votre plateforme internet, ça figure ce genre de cas de figure?
Tout à fait. Déjà, ça figurait sous la 14e législature, tout simplement parce que c'était dans les déclarations HTVP. Donc moi, je reprenais. Et puis c'est vrai que je fouillais un petit peu pour savoir. Un petit peu qui était qui, puis je voyais qu'il y avait des noms qui revenaient assez souvent. J'ai le cas, par exemple, d'un assistant parlementaire qui était sur 5 députés en même temps, plus un eurodéputé, il était cadre dans son parti, puis il avait un mandat local. Lui, j'ai jamais compris.
Grosse force de travail.
On va dire ça. Et j'en avais un autre pareil, il était sur 5 députés socialistes en même temps, c'était assez hors norme. Mais maintenant, gloire en soit rendue au premier questeur, c'est vrai qu'il y a un peu moins de dérives parce qu'ils sont un peu plus surveillés et c'est aussi pour une raison très simple, c'est qu'on a moins de cumul des mandats.
Exactement.
Donc les députés sont plus présents à l'Assemblée et du coup, les assistants parlementaires doivent vraiment fournir un travail. Néanmoins, ça continue. Hein.
Aujourd'hui, avec la fin du cumul, les députés, ils sont que députés. Et si vous voulez exister en étant que député, il faut travailler. Et si vous voulez travailler, il vous faut des bons assistants ou des bonnes assistants parlementaires. Et ça, ça ne permet plus de faire ces petits bricolages qu'il fallait avant. Moi, je le dis, aujourd'hui, il n'y a pas de bons députés sans bons collaborateurs.
C'est
donc,
impossible.
Et
les miens, les trois collaborateurs figurent sur votre site et sur le site aussi de l'Assemblée. C'est maintenant transparent et je trouve ça très bien.
Je suis allé voir, c'est très complet en ce qui vous concerne. Ouais. On a problème que vous êtes né un dimanche, c'est vous dire s'il manque absolument.
Je l'avais oublié, moi-même.
Et ça, c'est une des conséquences de la suppression du cumul des mandats, qui est sans doute l'une des réformes les plus importantes du quinquennat de François Hollande.
Il faut gloire lui en soit rendue.
19h43, une question de Jean-Pierre, puis nous évoquerons le projet, enterré ou pas, on verra, de la Banque de la Démocratie. Bonsoir Jean-Pierre.
Oui, bonsoir. Bonsoir à France Inter. J'ai une question à poser. Vous parlez des partis politiques. Beaucoup de partis politiques avec beaucoup de personnes, mais combien faut-il de personnes pour faire un micro-parti? Est-ce qu'il faut deux personnes comme la loi 1901, un secrétaire, un président?
Une bonne question qui met en joie Trissa Catrinet. Elle a la réponse apparemment, on vous écoute.
Bonjour. Alors c'est simple, si vous voulez faire un parti politique, il faut être deux personnes. La norme, c'est plutôt d'en avoir trois, mais deux personnes, ça suffit largement et c'est tout. Vous pouvez changer d'adresse quand vous voulez, vous pouvez changer de nom et c'est même pas obligatoirement au journal officiel, puisqu'il suffit de cocher la case « je ne veux pas que ça figure au journal officiel ».
Oui, mais il faut quand même un mandataire financier et un expert comptable parce que
deux commissaires aux comptes pour.
Il faut quand même déposer ses comptes, même s'ils ne sont pas très importants. Ouais. On a quand même 493 partis politiques.
Non, on en a plus.
Hein? Partis ou groupements politiques.
Plus.
Hein? Il y en a un peu plus tous les ans. Mais si vous voulez, le dernier rapport de la Commission nationale des comptes de campagne des partis politiques, normalement s'attendait à 493 déclarations. Il se trouve d'ailleurs qu'il y a un grand nombre, près de 25% des partis politiques, qui ne déposent pas leurs comptes. Jusqu'à présent, ça n'avait pas d'effet. À partir de 2018, grâce à la dernière loi, ces partis-là vont disparaître. Donc, ils vont disparaître, sinon ils risquent 3 ans d'amende, 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Donc, pour des partis qui ont 1 500 euros de compte, Et donc là, c'est un des effets positifs de cette loi.
Alors, on a failli assister à une petite révolution en matière de financement des partis politiques. C'était une idée de François Bayrou, presque candidat, reprise sous forme de promesse par Emmanuel Macron, candidat. Ça faisait partie du pacte électoral Bayrou-Macron. Et puis finalement, abandonné il y a quelques semaines en rase campagne par le gouvernement, le projet de banque de la démocratie. Erwan Balanan, ça consistait en quoi, rapidement, cette banque?
Ça consistait à avoir une banque qui tout simplement, un peu sur le modèle de la BPI, adossée à la Caisse des dépôts, et qui aurait permis de financer les partis. Voilà, tout simplement, et les partis et les candidats. Ça aurait été une banque comme...
Trouver un crédit,
voilà,
facilement.
Trouver un crédit, facilement, avec des conditions claires, des conditions précises pour rembourser. Tout ça aurait, mais c'est pas fini, parce que nous, le MoDem, nous allons revenir sur cette question. Il nous reste 4 ans pour mettre en place cette banque qui n'est pas, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Là, on nous propose un médiateur du crédit, des politiques. Moi, j'y crois pas trop, parce que je vois ce que font les médiateurs du crédit dans la sphère des particuliers. On a encore beaucoup de personnes qui ont des difficultés à avoir des crédits. Donc, je vois pas l'intérêt de ce médiateur. Qu'il existe, c'était, certes, mais ça suffira pas.
C'était une promesse, c'était pratiquement fait. D'après vos informations et votre intuition, pourquoi le gouvernement a renoncé ?
Moi, je ne sais pas exactement pourquoi. Je pense qu'il a été assez influencé par l'avis du Conseil d'État, qui était assez dur avec le texte tel qu'il était. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Je ne suis pas sûr que ça soit une mauvaise volonté, j'ose espérer qu'avec le gouvernement, nous allons peut-être nous remettre au travail et proposer quelque chose de nouveau. Pour nous, en tout cas, c'est pas enterré.
Le téléphone sonne. Arnaud Bousquet. Sur France Inter.
Et nous accueillons Francis depuis Châtenay-Malabry. Bonsoir Francis.
Bonsoir. J'ai été surpris tout à l'heure d'entendre qu'un parti politique ne pouvait pas être en faillite. Bon, on n'a pas eu les explications, ça me paraît étonnant. Et il a été dit aussi qu'aux États-Unis, les sociétés pouvaient financer, mais les particuliers peuvent aussi financer. C'est comme ça qu'on en trouve certains ambassadeurs ici ou là, y compris en France à un moment. Bon, ma question maintenant, je voulais savoir, et je suis étonné qu'on ne pose pas systématiquement cette question au début du téléphone sonne pour des tas de sujets, qu'est-ce qui se passe en Europe pour le même problème ? Comment finance-t-on les partis politiques en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Royaume-Uni, tant qu'ils sont encore là ?
Pour tout vous dire, Francis, je pensais conclure par ça en demandant s'il y avait un modèle quelque part, effectivement, dans le monde dont on devrait s'inspirer, un modèle particulièrement sain vers lequel la France devait tendre. René Dosière.
Alors, sur le fait qu'un parti politique ne peut pas être en faillite, tout simplement parce que la loi l'interdit, explicitement d'ailleurs, puisque des associations, des entreprises peuvent être déclarées en faillite, mais pas les partis politiques. La loi, ça tout à fait exclu. Pourquoi ? Tout simplement parce que le parti politique, si vous voulez, on ne peut pas le définir. Le parti politique, c'est un parti politique. C'est celui, tel que le dit la Constitution, qui concourt au suffrage, point final.
On joue sur les mots. S'il n'est pas en faillite, mais il ne peut plus vivre, quoi.
Oui, non, voilà. Il ne peut plus vivre, c'est son problème. Mais ce sont ses adhérents, ce sont ses instances qui décideront de le mettre en sommeil. Mais un parti politique a diverses possibilités de ressources, donc ça vivote, ça vend son patrimoine, etc. Mais il n'y a pas de statut. Ça peut ne pas être une association non plus, le parti politique. Ça existe.
Sur la question de Francis, est-ce que l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Grande-Bretagne sont des modèles du genre ?
Écoutez, non. Enfin, ils ont chacun leur système. Je crois que de ce point de vue-là, la France peut s'honorer de son système, surtout dans la mesure où elle a plafonné les dépenses, si vous voulez. Hein, c'est-à-dire que pour les élections, on peut pas dépenser plus, avec notamment un contrôle, et ce contrôle est effectif. On le voit bien à chaque élection. Et donc ça, la particularité française, c'est effectivement d'éviter les dépenses. Pas de spot télévisé, pas de campagne audiovisuelle, enfin, etc. Au
pas
contraire,
d'achat de poste likés sur
et
Facebook.
Une limitation, on ne peut pas dépasser un plafond. Et
Erwan Balanon.
Un plafond qu'on ne peut pas dépasser. Quand on le dépasse, on est sanctionné, hein, faut le rappeler. Et moi, pour avoir fait un certain nombre de campagnes, je peux vous dire que tout ça, et M. Dosière aussi a fait un certain nombre de campagnes, tout ça est très, très précis. La Commission nationale des comptes de campagne fait un travail remarquable.
Tout à fait.
Elle vous retoque parfois. Moi, j'ai eu 57 euros retoqués. Voilà. Parce qu'ils considéraient.
Qui correspondait à
un accord avec le Parti En Marche sur des formations information. C'était, alors j'ai dû expliquer et ça n'a pas été retoqué parce qu'ils ont effectivement vu qu'il y avait la réalité de cette somme-là, qu'elle avait été vraiment effective.
Non, je tiens à dire d'ailleurs que le président de cette commission, M. Laugereau, qui est ancien président, premier président de la Cour des comptes, fait un travail remarquable. Je le dis parce qu'il a été mis en cause de manière tout à fait inadmissible par un parlementaire d'ailleurs. Cette commission a une longue expérience, elle fait très bien son travail, elle a seulement insuffisamment de moyens. Il faudrait doubler son budget de manière à ce que les contrôles puissent être plus précis. On a bien vu, ils l'ont dit à l'occasion de l'élection présidentielle, on ne peut pas toujours tout voir parce qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens.
Trissa Catriné.
Alors justement, moi dans le cadre des partis d'Arcadie, puisque c'est comme ça en fait que la plateforme s'appelle, j'essaye d'être en contact avec la commission des comptes de campagne, avec qui j'essaye de travailler en bonne intelligence. Et clairement, moi je le vois, puisque je le pratique un peu au quotidien, à quel point c'est pas une question de volonté, c'est simplement qu'ils sont en sous-effectif, qu'ils n'ont pas de budget suffisant, et tout simplement, ils ne peuvent pas non plus aller au-delà de ce que la loi prévoit. Donc c'est pas... parce que ça a été un des débats qu'il y a eu quand il y a eu l'histoire des comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, d'Emmanuel Macron, de tous les autres aussi, en fait.
Benoît Hamon, de tous.
Ah oui, c'est vrai.
Sur la dernière présidentielle.
Sur la dernière présidentielle, on a quand même assisté à des échanges de colibés concernant la commission des comptes de campagne. Mais moi, pour avoir pu consulter les comptes et pour voir la masse de documents que ça représentait, pas informatisés d'ailleurs, puisque c'est des trucs papier. Enfin, il n'y a pas un standard en disant, voilà, vous faites tout, par exemple, sur informatique.
Donc ils peuvent pas tout voir, mais ils en voient quand même beaucoup. Ouais, les 59 euros...
57
du député Balanant. Et puis cet après-midi, on a appris que l'élection du sénateur Jean-Pierre Banzard avait été annulée par le Conseil constitutionnel pour des irrégularités. Ça a été officialisé dans ses comptes de campagne.
Sans doute sur le rapport de la commission des comptes de campagne.
Il avait oublié de déclarer les frais de transport d'un bénévole pendant la campagne.
Les citoyens ne se rendent pas compte c'est vraiment... Il faut vraiment faire très attention quand on est en campagne. Et moi, je pense que c'est aujourd'hui extrêmement difficile de tricher. Mais en tout cas, je ne vois pas trop comment on pourrait faire.
Ouf, il y a des idées.
Mais visiblement, il y a certains qui sont plus imaginatifs que moi.
Nous rejoignons Jackie à Sommières. Bonsoir, Jackie.
Bonsoir, France Inter. Bonsoir, les invités. Très intéressante, cette émission. Et j'aimerais qu'on me réponde sur le fait que de financiariser comme ça les partis politiques un petit peu à l'image de ce qui se fait aux États-Unis. Est-ce que ça n'encourage pas le développement des lobbies industriels et de la financiarisation de l'avenir du monde et souvent d'aller à l'encontre des intérêts de la population au risque effectivement de perdre des marchés, donc on n'y va pas. Et est-ce que ça va véritablement dans le sens de l'environnement où on voit aujourd'hui que les dégradations sont très importantes, et est-ce que ça n'influe pas sur la vie politique, effectivement, cette forme de financiarisation de la vie politique également?
Qui veut répondre? René Dosière, après Tris Catriné.
Écoutez, j'avoue que je comprends mal votre auditeur. Le pays où il n'y a pas où la réglementation et le financement public est très faible, ce sont les États-Unis. Et on voit bien comment là, les lobbies, les intérêts financiers les plus importants se battent à coups de milliards de dollars. Donc là, on est vraiment dans un système qui est un système où c'est celui qui a le plus d'argent qui gagne, y compris d'ailleurs les candidats, souvent. Nous, on a mis en place depuis une trentaine d'années un système où justement ce financement est en principe interdit. Je dis en principe, il est interdit, mais on ne peut pas penser que peut-être il n'y a pas quelques déviances. En tout cas, s'il y a des déviances, c'est sanctionné. Et puis, il y a un financement public avec des règles, un contrôle, un plafonnement des dépenses. Donc, on a un système qui est quand même beaucoup plus moralisateur, beaucoup plus finalement performant.
Trissa Catriné.
Je pense que justement le fait que les entreprises ne peuvent pas financer les partis politiques fait qu'il ne peut pas y avoir ces dérives. J'ai compris là où voulait en venir notre auditeur en disant la financiarisation des partis, c'est-à-dire que il y a une valorisation, il y a du patrimoine, il y a des actifs, voilà, on doit tenir une comptabilité. Oui. Je pense que c'est peut-être à ça qu'il pensait. Et c'est vrai qu'on est un peu loin quelque part, de la ménagère qui tient ses comptes à la maison avec son cahier. Mais en réalité, notre système, même ici, n'est pas parfait. Je suis la première à soulever des points. par rapport à d'autres pays où le financement est beaucoup plus open bar comme aux États-Unis, on le voit très bien. Elon Musk, par exemple, a donné énormément d'argent au Parti Les Républicains. Ouais. C'est pas innocent.
Oui, sachant qu'aux États-Unis...
Il y a un retour sur investissement. Oui.
Qui a attendu, c'est évident.
Et aux États-Unis, il y a même des entreprises et des firmes qui donnent aux deux partis.
Oui, ouais, mais comme ça, il n'y a pas de jaloux.
Voilà, non, mais pour être sûr. En France, on a effectivement, c'est de l'argent public. Une grande partie, c'est de l'argent public. À ceux qui disent pourquoi mes impôts financent la vie politique, moi je réponds tout le temps, la démocratie ça a un coût et il faut l'admettre. Il faut accepter que être dans un pays démocratique, ça coûte parfois de l'argent de faire vivre cette démocratie et c'est très bien comme ça.
Deux questions rapides et des questions et des réponses rapides s'il vous plaît pour conclure cette émission. Des questions arrivées sur la page de l'émission, le site franceinter.fr. Comment a été initialement financée La République En Marche? Comment du jour au lendemain on devient un énorme parti politique?
Par des levées de fonds.
Erwan Balanan.
Au départ, c'est effectivement des levées d'argent sur la somme de 7500
euros. Des dons de 7500 euros. C'est à peu près 4 millions de dons.
Voilà. 7500 plus 7500 plus 7500, ça fait.
Ils ont fait des levées de fonds comme on fait des levées de fonds dans les startups. Ça a été ce même système.
Et puis en 2017, c'est le succès.
Voilà, après. Donc, vous gagnez les élections.
Et en 2018, c'est le jackpot. Alors là, ça va être des dizaines de millions qui vont tomber, quoi.
Sur ce qui s'est passé dans les précédentes campagnes électorales, peut-être René Dosière, avec votre recul, un auditeur nous dit « J'entends que des progrès ont été faits en matière de financement des partis, campagne électorale aussi. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé, par exemple, depuis la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 ?»
Fondamentalement, non, si vous voulez, les mêmes règles que celles qui existaient sous Nicolas Sarkozy continuent à exister. Simplement, il y a eu en 2007 tricherie, avec le concours du parti. Et donc c'est pas impossible. Simplement, on constate que ça a été révélé, que c'est sanctionné et que ça sera très très sérieusement sanctionné d'ailleurs. Voilà.
Et ça serait moins possible aujourd'hui.
Je note d'ailleurs pour que la dernière présidentielle est sans doute la moins coûteuse. Les candidats ont été prudents. Ils ont limité leurs dépenses, les deux candidats du deuxième tour.
Quand vous voyez les remarques à propos de la dernière présidentielle sur les factures de Jean-Luc Mélenchon, sur les ristournes d'Emmanuel Macron, vous vous dites c'est une petite tempête dans un petit verre d'eau?
Non.
Grosse tempête? Pour conclure, Trissa Catriné.
Je pense qu'il ne faut pas minimiser les différentes affaires et les différentes questions qu'ont soulevé les financements de la dernière campagne présidentielle.
Ouais, d'un autre côté, quand vous louez un local au mois de février, une année avant l'élection, ce n'est pas le même prix que 15 jours avant l'élection.
Donc c'est pour ça
qu'il y a des différences aussi. Ce n'est pas que le pouvoir de négocier, c'est aussi le timing qui n'était pas le même.
Oui, mais on va voir un petit peu aussi ce qui va sortir de différentes investigations.
La Commission a fait son travail dans la limite de ses compétences. Il appartient au Parlement de lui en donner plus. Dans la limite de ses moyens financiers, il appartient au Parlement de lui en donner plus. Aujourd'hui, son budget, c'est 7 millions, 50 personnes.
Merci.
Monsieur Balanan, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
De votre venue ce soir en studio pour répondre aux auditeurs du téléphone sonne, René Dosière, l'Observatoire de l'éthique publique et votre dernier ouvrage, Argent, morale et politique, paru aux éditions du Seuil. Trissa Catriné, la plateforme en ligne, Projet Arcadie pour absolument tout savoir de nos parlementaires, leurs activités et leurs connexions éventuelles. Et Erwan Balanan, bon retour à Concarneau.
Bon retour encore à l'Assemblée.
Une fin de semaine et après Concarneau, la semaine va être chargée à l'Assemblée, il paraît. Oui. Je rappelle que vous êtes député MoDem du Finistère. L'émission est à réécouter sur le site de France Inter ou sur l'appli, ça marche aussi. Merci à Caroline Baudry, Justine Bilray et Pierre Gaufre qui m'ont aidé à préparer ce téléphone sonne. Émission ce soir réalisée par Lucie Lemarchand et Clément Nouguier avec Victoria Asper et Pierre Faucillon à la technique. On se retrouve demain, s'il vous plaît, pour essayer de réparer la fracture numérique.